Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction podcast 543. Avec moi aujourd'hui, nous avons Romain.
Bonsoir.
Beaucoup d'enthousiasme, vous l'aurez noté. Et évidemment, Thomas aussi.
Coucou et bonjour, puisque dans mon pays, il est midi là. On a quelques heures de décalage avec le Valois.
D'accord.
Tu vois, moi, il fait très sombre chez moi et toi, tu es en pleine lumière.
En pleine lumière.
Bon, avec Romain et Thomas aujourd'hui, donc nous allons faire le match. Ça y est, nous sommes enfin dans la semaine décisive de la nouvelle génération de consoles. La Xbox Series X et la Xbox Series S viennent de sortir. La PS5, elle arrive dans quelques jours. Nous les avons eues toutes les deux entre les mains et nous allons pouvoir vous en parler un peu plus en détail. On va faire vraiment, comme je vous le disais juste avant, le match entre les deux consoles, savoir laquelle est la meilleure ou pas. En fait, bon, on fait toujours ce genre de présentation, mais finalement, c'est un peu grotesque de vouloir absolument les opposer. On va juste parler eh bien, de leurs avantages, de leurs défauts, et on se posera aussi une petite question à la fin de savoir si ça vaut vraiment le coup de prendre une console next-gen maintenant, parce qu'au final, c'est à ça c'est sur ça qu'on doit vraiment se pencher au moment où on vous parle, parce que est-ce que ça a vraiment un intérêt quand on observe les machines et leur line-up de lancement, est-ce que ça a vraiment un intérêt de les avoir maintenant? C'est la question à laquelle on répondra tout à l'heure. Avant ça, évidemment, vous le savez, il y aura le win et le fail, et pour finir, les jeux de la semaine avec des jeux next-gen, justement, dont Romain et Thomas nous parleront. Je vous disais qu'il y avait le win and fail, on commence immédiatement par en parler. Alors, le win de la semaine, c'est la France, mon cher Thomas, le Et pays oui. de l'omelette du fromage, qui est une terre de joueurs, puisque le CEL a publié sa nouvelle étude annuelle par rapport justement aux habitudes des Français et aux habitudes vidéoludiques des Français.
Tout à fait, et pas mal de chiffres et des statistiques assez intéressantes. Alors, on précise que c'est une étude qui a été réalisée par Médiamétrie sur 4072 personnes de plus de 10 ans. Donc, quand on vous dit les Français, là, en l'occurrence, c'est les Français de plus de 10 ans. Ceux qui en ont moins n'ont pas été comptabilisés. Et du coup, c'est ce qui nous a donné eh bien, cette statistique. 71% des Français jouent aux jeux vidéo au moins occasionnellement, ce qui fait en chiffres bruts presque 36,5 millions eh bien, de joueurs francophones. Donc, un joli score et une jolie part. Alors, vous avez toutes les statistiques dans l'article que tu as rédigé, mon cher Plume. On a donc la répartition genrée avec 53% d'hommes pour 47% de femmes. Donc, on est presque à l'équilibre. Et un âge moyen de 39 ans, qui te correspond aussi plutôt bien. Mais il y a plein de choses quand on rentre un petit peu dans le détail. Par exemple, le genre préféré des joueurs français, ça reste le jeu casual pour 38% d'entre eux, en fait. Donc, il y a toujours une belle percée. Alors, c'était écrit jeu casual mobile. Hein. Donc, on imagine évidemment tous les free-to-play, tous les casse-briques, les match-tree, etc. Mais qui, du coup, reste un genre assez prisé des joueurs, qu'ils soient occasionnels ou pas. Une statistique que j'ai trouvée très intéressante, c'est la répartition des joueurs qui jouent en ligne. Et ceux qui ne jouent pas en ligne, moi, j'ai été très étonné, puisqu'en fait, 63% des personnes qui ont été interrogées ne jouent pas en ligne, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est une tendance de fond tellement forte que tout le monde désormais se la donne online. Bien pas du tout, sur l'étude, ils ne sont que 37% à le faire. J'ai trouvé ça très intéressant. Et Covid oblige, on a toute une partie sur les habitudes de consommation pendant le confinement. Est-ce que ça a changé la donne ou pas? Alors, pas tellement, puisqu'en fait, il n'y a que 2% des personnes interrogées qui déclarent avoir essayé le jeu vidéo pour la première fois du fait du confinement. Donc, c'est quand même très peu, 55% qui ont à peu près autant joué qu'avant et 32% qui ont augmenté quand même un petit peu leur consommation. Donc, on voit qu'en gros, la part des joueurs qui étaient déjà intégrés joue un tout petit peu plus, mais que ça a priori pas ramené un énorme public, puisque 2%, c'est quand même assez marginal et assez faible. Donc, a priori, le premier confinement n'a pas suffi à faire venir de nouveaux joueurs vers le jeu vidéo.
Eh bien, on y arrivera avec le deuxième, moi je vous le dis.
Espérons, ouais.
Ce qui est marrant, c'est que ce genre d'étude qui a finalement des résultats assez similaires à chaque fois, ça souligne un certain paradoxe chez les joueurs de jeux vidéo, parce que d'un côté, tu as les joueurs hardcore, enfin une certaine catégorie de joueurs hardcore qui dénigrent ouvertement les jeux mobiles et les joueurs casual, etc. Mais à côté de ça, quand le jeu vidéo est attaqué, ils sont bien contents d'utiliser ces statistiques. Oui, mais vous savez, 76% des joueurs français jouent et il y a 39 39 ans de moyenne d'âge chez les joueurs. Oui, mais sauf que si tu retires tous les gens qui jouent à Clash of Clans ou à Candy Crush ou trucs comme ça, et ben ta moyenne, elle va quand même diminuer largement et ça sera plus la même chose. Donc,
et on ne parle même pas du ratio homme-femme si on suit la même logique.
Oui, et tu parlais du jeu en ligne. Là encore, il faut compter le, il faut, je pense, séparer les joueurs mobiles du reste. Par exemple, je pense à ma femme qui, ça peut lui arriver de jouer avec moi sur console, etc. Mais globalement, la majorité de son temps passé sur les jeux vidéo, c'est sur mobile. Et à chaque fois, ce sont des jeux qui se jouent pas en ligne. C'est du Candy Crush, du Match 3, et des choses de ce genre-là. Et ben ça rentre pas dans le jeu en ligne, tu vois.
C'est vrai que là-dessus, ça mériterait sans doute d'avoir une stat un tout petit peu plus précise et de faire effectivement le distinguo console mobile, parce que c'est vrai que jouer en ligne sur mobile, c'est pas forcément la norme et c'est pas systématique.
Ben, comme toujours, les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux.
En tout cas, il y a des stats que j'ai trouvé assez intéressantes, et le fait qu'ils aient pensé à faire une partie confinement était quand même assez intéressante aussi.
Parce que ouais, pour le coup, le confinement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment le jeu vidéo de base, mais qui, pour diverses raisons, familiales, professionnelles, etc., n'ont plus le temps d'y accorder du temps comme ils le souhaiteraient. Et là, le confinement, ça a été l'occasion de se replonger là-dedans et de revenir vers cet amour malheureux.
Bon, on va rester dans l'histoire du confinement un tout petit peu, Romain, avec le fail. Parce qu'on, avant de parler des deux consoles next-gen, on va parler évidemment de tous les problèmes de distribution que cela peut engendrer pour le lancement. Au moment où on enregistre, par exemple, nous sommes le mardi 10 novembre 2020. Aujourd'hui, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont censées sortir. Et bah, pour trouver des consoles next-gen, finalement, à part peut-être la Xbox Series S, qui, elle, n'est pas encore en rupture, c'est quand même un sacré foutoir. Et il y a beaucoup de précisions qui sont apportées au fur et à mesure par différents revendeurs. Alors, il y avait déjà Micromania qui s'était un peu emmêlé les pinceaux. Il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière, hein, de tous les soucis que Micromania a pu créer dans la tête des gens qui voulaient récupérer leur précommande. Finalement, où est-ce qu'on en est en termes de récupération d'une console next-gen aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un peu une blague, Romain?
Bah, c'est une blague, oui, mais d'une manière semi-coupable. Parce que d'un côté, tu as la situation sanitaire actuelle et le confinement, etc., qui ne facilite évidemment pas les choses. Parce qu'en plus, le jeu vidéo, même si ça nous sert beaucoup et qu'on adore ça, ça reste pas du produit de première nécessité, donc ça fait pas partie des boutiques qui peuvent encore être accessibles librement. Mais donc d'un côté, vous avez des consoles qui sont quand même proposées dans des quantités relativement restreintes en cette fin d'année. Donc d'un côté, il y a un peu un cafouillage à ce niveau-là, et de l'autre côté, vous avez la pandémie qui, elle, forcément limite l'accès aux magasins de manière plus traditionnelle. Donc dans l'ensemble, les gens qui ont réussi à réserver leur console en avance et qui ont reçu des messages de confirmation leur indiquant que la console serait disponible le jour J, bah, eux, c'est bon. Pour ceux qui comptaient acheter la console comme ça, presque à l'improviste le jour de la sortie, puisqu'il y en a, hein, il y a souvent des gens qui se décident le jour même.
J'en connais.
Et bah, pour eux, ça va être plus compliqué, même si on est le 10 novembre. Je vois popper sur Twitter depuis ce matin des messages disant sur tel ou tel site de vente en ligne, il y a des Xbox Series X qui sont à
absolument
nouveau en stock.
Il y a eu Darty, il y a eu la Fnac, il y en a eu beaucoup. Même le Microsoft Store aussi en a proposé, mais ça s'est épuisé très rapidement.
Donc, il y a des petites quantités. Donc, il faut rester à l'affût, en fait. Si vous en voulez une absolument rapidement, restez à l'affût, vous aurez peut-être un petit coup de chance. Après, il y a encore un autre cas de figure particulier qui est celui du Xbox All Access. Parce que c'est la première fois en France qu'on a accès à ce système qui est en fait une sorte de crédit à la consommation dissimulé derrière l'achat d'une Xbox, soit Series X, soit Series S. À la base, en France, deux revendeurs permettaient de souscrire au Xbox All Access. Il y avait la Fnac et Micromania. La Fnac a tout simplement dit « bon, c'est reporté, on ne peut pas le faire actuellement, donc ça viendra plus tard ». Micromania, eux, permettre de le faire, mais là encore, c'était chez les gens qui avaient déjà réservé leur console. C'est, on peut pas genre arriver maintenant et dire tiens, bah, je me prendrais bien la Xbox Series X et en plus via le système All Access. C'est, y a plein de cas particuliers. Si vous voulez le détail, allez sur le site. Hein, j'avais écrit une news à ce sujet où je précise les différents cas de figure. Mmh. Et pour la PS5, Sony a tout simplement déclaré que la console ne serait pas. Bah, forcément, les magasins sont fermés. Donc, elle ne serait pas en vente libre le 19 novembre. Après, on pourrait se dire que c'est un cas spécifique à la France, mais ils ont déclaré que ça serait comme ça un peu partout dans le monde pour des raisons sanitaires. Après, vu que ça a l'air d'être un peu la galère niveau quantité, c'est aussi un moyen de mettre les pénuries sous le dos. Ben non, on a dit qu'on ne les vendrait pas librement dans le commerce. Mais donc là, si vous avez réservé votre console et que vous avez reçu confirmation que vous l'auriez day one, ben là, ça devrait pas changer. Si vous comptiez arriver comme une fleur devant un magasin pour essayer de vous en trouver une le 19, ben là, c'est clairement mort. Et après, là, c'est un peu la roulette russe, hein. C'est le jeu du hasard. En surveillant bien les revendeurs, peut-être que des petites quantités seront mises à disposition le jour J. Je ne sais pas, c'est impossible de le savoir à l'heure actuelle, mais on ne va pas se mentir, en France, la marque PlayStation bénéficie d'une popularité qui est quand même sensiblement supérieure à la marque Xbox. Donc, il y a une plus forte demande autour de la PS5 en ce moment en France. Donc, je pense que d'une manière générale, ça va être au moins dans un premier temps plus difficile de se procurer une PS5 qu'une Xbox Series X et encore plus qu'une Xbox Series S parce qu'on le sait, hein, la Xbox Series S, c'est le modèle qui est destiné au grand public, qui n'est pas forcément joueur hardcore et très pointu en termes d'avancées technologiques, etc., etc. Donc, dans un premier temps, les hardcore gamers vont surtout se diriger vers la Series X. Donc, peut-être que si la Series S vous intéresse malgré tout, vous arriverez à en trouver. Et pour ce qui est de la PS5 Digital Edition, pardon, visiblement, elle est en rupture aussi. Mais elle, c'est vraiment pour des raisons différentes. C'est parce que les allocations en Digital Edition étaient bien moins importantes pour les revendeurs français que dans le modèle avec lecteur de disques.
Juste une petite question à tous les deux. Vous pensez que cette histoire de stock va avoir une incidence sur les marques, que ce soit Microsoft, que ce soit Xbox ou PlayStation, que ça va jouer sur l'image qu'ont les joueurs de ces marques ?
Bon, non, pas du tout, parce que on se souvient de. Enfin, Nintendo a connu la même chose pour un lancement il y a presque une quinzaine d'années avec la Wii. Elle a été en rupture, je crois, à peu près jusqu'au mois de mars. On ne pouvait pas s'en procurer, comme le disait Romain, en se pointant dans un magasin et en espérant repartir avec sous le bras. La console a eu un succès phénoménal. Je ne vois pas pourquoi Sony ou Microsoft seraient, là, en 2020, victimes de ça. D'autant plus qu'on le voit avec les précommandes, la demande qu'il y a eu. Les gens veulent, attendaient vraiment cette nouvelle génération de consoles, la veulent, la commande, et je pense que la demande va être toujours très élevée. Alors, le problème, ça sera d'expliquer qu'effectivement, oui, les modèles sont sortis, mais ne sont pas disponibles tout de suite, avant un moment, il faut réserver, être patient, etc.
Quand on jette un œil, bah justement, j'allais en parler, parce que quand on jette un œil aux réseaux sociaux et aux posts officiels de PlayStation, par exemple, et que leur post, c'est « Ah, la console est disponible le 19 », jouer n'a pas de limite et que toutes les réponses les unes après les autres c'est ah si les limites c'est le stock hein, les trucs ou ce genre de choses forcément ça crée de la frustration.
On sait qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement cette année avec la crise du Covid, on sait que même chez Nintendo hein, il y a eu des difficultés pour se procurer certains composants pour fabriquer la Switch donc ça a sans doute été au plus offrant. Enfin, on comprend aussi pourquoi les quantités sont limitées, les deux constructeurs ne pouvaient pas louper la fenêtre de sortie. Donc, voilà, c'est quelque chose de compréhensible aussi. Romain, tu voulais dire un peu.
Mais oui, de toute façon, les problèmes de composants, ça prédate même la crise du Covid. Hein. Certains éléments sont très prisés parce qu'ils sont partagés aussi bien par les consoles que par les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Et donc, il y a vraiment beaucoup de demandes d'une manière générale. Donc, ils ont réussi à assurer des quantités. Et Sony, sur ses perspectives, pense vendre plus de PS5 que de PS4 sur une durée équivalente. Donc, ça montre qu'ils ne sont pas trop inquiets et que les joueurs n'en tiennent pas trop rigueur. De toute façon, les joueurs sont résignés. Hein. Ils savent ce qui se passe et ils attendent leur console. Là où ça risque peut-être juste de faire des déçus, c'est chez les enfants principalement, qui espéraient avoir une console next-gen à Noël et qui, eux, bah, et après cela dit, est-ce qu'il y a encore vraiment des enfants qui demandent des consoles à l'ancienne comme ça? Parce que nous, je vois à chaque fois qu'on a un stagiaire au bureau, ce ne sont pas des enfants, mais ils sont quand même beaucoup plus jeunes que nous, et il n'y en a pas un qui joue sur console. Ils sont tous sur PC à jouer à des jeux multi. Et
donc, c'est vrai qu'un smartphone suffira à Noël. Ouais.
Ou même à des smartphones où je vois, moi, mes neveux, etc. Bon, s'ils jouent un peu sur console, mais globalement, leur activité, elle est plus là, quoi.
Ouais, puis non, tes neveux, ils jouent sur Tesla, tu m'avais dit, toi.
mes neveux à moi.
En tout cas, chez nos lecteurs, il y a les premiers vénards à aller retirer leur Xbox Series X. Hein. Ils sont plusieurs, notamment Anto, qui nous envoie des photos de sa configuration au fur et à mesure. Donc, les plus vaillants sont déjà là, ont fait l'ouverture des boutiques.
Ben dis donc.
En retrait.
En retrait,
en retrait uniquement.
Ouais. Évidemment. Ouais.
En click and collect, comme on dit. Ouais. Bon, alors attendez, hop, parce que je crois que je viens de débrancher mon casque, évidemment. Alors, on va passer au premier thème, évidemment. Enfin, le seul thème, en fait, de ce podcast. Le seul thème de ce podcast, on a fait un petit peu la transition avant avec le fail, c'est évidemment la sortie des deux consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5, qui arrivera le 19 novembre officiellement chez nous, mais qui arrive le 12 novembre dans d'autres territoires un peu partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que vous pouvez déjà commander les accessoires et quelques jeux en avance. Ils arriveront chez vous tranquillement, avant même que vous ayez la console. Et évidemment, on va parler de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. C'est de plus en plus pénible de devoir dire les noms de ces consoles, il va falloir vraiment qu'on trouve des raccourcis, qui, elles, sont arrivées ce mardi 10 novembre officiellement, ce mardi 10 novembre 2020. On va faire un petit comparo de chacune des spécificités des consoles, les unes après les autres. On va commencer par le plus évident, c'est la tronche de chacune et l'encombrement. Messieurs, quelle préférence avez-vous de ce côté-là? On va commencer par toi, Romain.
Alors moi, ça sera purement et simplement matériel vis-à-vis de mon meuble télé et de la configuration de mon salon actuellement. Je pense, après, j'en ai eu qu'une des deux chez moi, donc je peux que me baser là-dessus. Je pense que la Xbox Series X est plus simple à intégrer dans mon meuble télé tel qu'il existe actuellement que la PS5. Parce que la PS5, j'avais déjà tout établi. J'allais la mettre là où j'ai actuellement ma PS4 Pro et mon PSVR. Les deux sont posés à côté en ce moment. Et je me dis que si je les retire, les deux, j'aurai assez de place pour mettre la PS5 à l'horizontale. Mais le problème, c'est que comme Sony préconise 10 cm d'espace de chaque côté pour les aérations, vu la taille de la machine, j'ai peur que ça ne passe pas, en fait, que je n'ai pas assez d'espace d'aération. Parce que la Xbox Series X, elle rentre sans trop de difficultés. Parce qu'en fait, elle est, la PS5, en termes de longueur, si tu la mets à l'horizontale, elle est quand même vachement plus grande que la...
Ah bah, la moitié d'une télé 55 pouces. Voilà, je l'ai posée à côté de ma télé, elle fait quasiment la moitié.
Elle est vachement grande. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que là, parce que je les ai prises dans les mains toutes les deux, la Xbox Series X est plus dense. Elle fait plus lourde et j'ai été étonné par le poids de la PS5 finalement. Je l'ai trouvé, vu la taille de l'engin, je pensais que quand j'allais la prendre dans les mains, elle allait être super lourde et en fait, elle me paraît plus légère que la Xbox. Alors, je ne les ai pas pesées.
4 kilos et quelques pour la PS5. Hein.
C'est vraiment une estimation comme ça à la main, mais elle m'a semblé plus légère que la Xbox. Mais bon, une fois qu'elle est posée, son poids, tu t'en fiches un peu. Le vrai problème, c'est réussir à la caler quelque part. Et donc, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour la PS5 que pour la Xbox.
Et là, on parle de la Xbox Series X, évidemment.
Ah bah, la Series S, elle pose aucun problème. Elle est tellement petite que...
C'est un petit lecteur, oui.
Tu la mets n'importe où.
Thomas, ton avis sur la question?
Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment match pour avoir pas mal manipulé les deux. Vraiment, pour moi, la Xbox Series X est bien au-dessus, vraiment en termes de look. En termes de finition, on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, je trouve, de beaucoup mieux fini. Alors, en termes d'encombrement, ça dépendra évidemment des configurations de chacun. Moi, je serais embêté dans tous les cas de figure pour l'une comme pour l'autre. Mais vraiment, sur l'aspect, je trouve que la Series X est vraiment, vraiment très bien pensée. On est face à un produit vraiment qualitatif, là où la PS5 donne... Alors, il y a ce problème de look. Ouais, j'ai des problèmes avec le côté brillant, etc. Mais on va dire que c'est purement esthétique. Mais il y a l'encombrement, il y a le fait que je ne la trouve pas forcément très belle, même à l'horizontale. Il y a quelque chose d'un petit peu disgracieux. Je trouve qu'en termes de look, c'est pas fantastique. Et en termes de bruit, c'est vrai que la Series X, elle arrive à garder une température vraiment très stable, là où la PS5 ventile forcément un tout petit peu plus. Donc Romain a raison, il va falloir vraiment penser à l'espace, à l'aération qu'on va pouvoir mettre autour. Et même au niveau des connectiques, des branchements, tout ça, la PS5 donne plus l'impression d'une première version de la machine, finalement, qui appelle forcément un relooking et une console un petit peu repensée et réduite dans les années à venir.
J'ai pas utilisé suffisamment la PS5 pour avoir la réponse à cette question, donc je vous la retourne. Mmh. Est-ce que vous avez réussi à lui faire faire du bruit à
oui.
la PS5?
Bien sûr, pour faire faire du bruit à la PS5, c'est très simple. Tu insères un disque pour un jeu que tu veux installer. Et là, elle fait du bruit. C'est le seul moment où j'en ai vraiment eu. Après, oui, une utilisation prolongée de la console fait que de toute façon, à un moment, elle va commencer un petit peu à souffler. Mais honnêtement, elle ne fait quasiment pas de bruit.
Parce que par rapport au PS4, ça...
Puis même de manière générale, elle est très beaucoup, beaucoup plus discrète que toutes les consoles que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je n'ai pas eu la Xbox Series X entre les mains, forcément, je peux pas comparer. Mais oui, pour tous les jeux... qu'on a pu lancer à la rédaction, même les jeux PS5, elle faisait pas beaucoup de bruit. Les jeux PS4, pareil. Et en termes de chauffe, c'est pareil. Tu te dis pas, tiens, je vais faire griller des saucisses dessus. C'est vraiment, tu peux la prendre après avoir fait tourner pendant 4-5 heures, tu peux la prendre à pleine main. Et elle est pas plus chaude qu'une autre. Elle souffle de manière discrète et efficace. Donc pour la PS5, en tout cas. Je trouve que c'est assez nickel de ce côté. Pour la Series X, là, je ne sais pas trop.
La Series X, en jeu, moi, je l'entends pas. Je l'entends pas du tout, y compris, et pourtant, moi, vous savez, pour mon dossier, je l'ai poussé. Hein, j'ai fait tourner 7 jeux en même temps, en switchant de l'un à l'autre, etc. Elle ne fait pas de bruit. La seule fois où j'ai réussi à lui faire du bruit, et beaucoup en plus, là où elle s'est mise à souffler, mais... beaucoup, c'est quand j'ai mis un film, un Blu-ray 4K, c'était Ghostbusters 2 en l'occurrence, pour le test. Le fait de mettre le disque dans la console et qu'il se charge, alors là, elle s'est mise à souffler énormément. Une fois que le film a été lancé, c'est retombé. Mais curieusement, c'est le seul moment où j'ai réussi à lui faire faire du bruit. Mais vu que principalement, on va les utiliser pour jouer, c'est silence total. Après, les machines sont neuves. Hein. Peut-être qu'avec avec de l'utilisation du temps, elles vont se mettre à faire un peu plus de bruit. Mais c'est très discret. Et par contre, alors ça m'a étonné, parce que bon, pour tout vous dire, chers auditeurs, j'ai embarqué, après avoir ramené la Series X au bureau, j'ai embarqué la Series S pour pouvoir continuer de jouer à Yakuza 7, parce que c'est une version des maths à laquelle j'ai accès. Donc, c'est pratique pour ça. En jouant à la Series S, j'entends parfois un petit claquement, tac 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 tac, mais très léger, tac 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 tac. Et donc globalement, pour l'instant, enfin c'est peut-être un cas particulier ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai limite l'impression que la Series S est plus bruyante que la Series X. À confirmer sur la longueur et avec d'autres jeux. Et
des mises à jour qui vont arriver sans
ouais,
doute.
Oui, et peut-être d'autres personnes qui auraient éventuellement cette même impression. Mais tu vois, ça m'a... Contrairement à la Series S m'a rappelé sa présence par moment. Une impression que je n'ai jamais eue en jouant à la Series X.
D'accord, alors qu'elle est quand même d'une taille absolument... totalement oubliable, hein. Vraiment, la Series S de ce côté-là, c'est limite un boîtier Vous savez, les trucs là, les rétro pailles ou je sais plus comment ça s'appelle là, les
Ah
trucs
oui,
squatty.
Raspberry, là.
Ouais, les Raspberry Pi, c'est limite cette taille-là, presque. Bon, j'exagère.
Oh,
Oui, un
t'exagères,
tout petit peu quand
t'exagères.
même.
Ok, j'exagère beaucoup. On a parlé de
Quel
l'aspect
italien.
extérieur, donc on va pouvoir commencer à parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de la console une fois qu'on l'a allumée. Enfin, je dis à l'intérieur, on va dire ce qui s'affiche à l'écran. Donc, de tout ce qui est navigation, interface, bref, l'expérience utilisateur de manière globale. Là, encore une fois, je vais vous poser la question à chacun. Quelle est l'interface qui vous semble la plus next-gen? Tiens, pour commencer, voilà, celle qui fait next-gen. Thomas,
Ben.
toi qui souris.
Écoute, là, comme ça, je vais te dire aucune des deux parce que ça reste des interfaces qui sont finalement la continuité, la prolongation de ce qu'on a connu avant, hein. Que ce soit chez Microsoft ou chez Sony, on est sur une évolution d'une formule qu'on connaissait déjà, avec du coup ses forces et ses faiblesses. Alors, moi qui n'ai pas eu d'Xbox One sur cette génération, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'interface de Microsoft. Je suis toujours un petit peu perdu. Si Romain n'avait pas été là pour m'aider à aller récupérer des captures quand j'ai fait le test d'Assassin's Creed Valhalla, je pense que j'aurais passé beaucoup plus de temps. Je ne suis pas forcément à l'aise, mais c'est surtout à cause de.
Est-ce que
Ah,
je
Romain.
peux te couper? J'ai une breaking news qui peut compléter quelque chose qu'on a dit précédemment.
Ah.
La Fnac vient d'annoncer qu'ils auront des PS5 à disposition le 19 novembre. Donc, ce sera
D'accord.
certainement les quantités qu'auraient dû être mises en magasin à l'ancienne, dans l'ancien monde. Mais ces consoles-là seront uniquement commandables en ligne. C'est
D'accord.
ce qui est logique, mais
Ça
ça
évitera la baston.
voilà, ça confirme qu'il y aura quand même quelques quantités de PS5 le jour J. Voilà. Vous
Ok, on reprend l'activité normale,
reprendre.
Thomas.
Ouais.
Et donc l'interface de la PS5, bah, pareil, c'est une évolution avec bah, le système de cases en ligne qu'on connaît depuis des années chez Sony, hein, qui remonte mine de rien à la PS3 en fait. Donc pareil, alors on en discutait un tout petit peu avant de tourner cette émission. Les joueurs qui sont très habitués justement à cet écosystème vont être un tout petit peu déboussolés parce qu'il y a des fonctionnalités qui étaient au-dessus, qui se retrouvent en dessous. Donc il va juste falloir se mettre à jour dans sa tête, changer un petit peu sa manière de fonctionner, mais il n'y a pas d'énormes bouleversements pour l'instant. Alors, on a eu de toute façon tous une utilisation pour l'instant assez restreinte, on va dire, de la console en termes de fonctionnalités. Donc, moi, j'ai forcément un affect un peu plus fin avec le dashboard de la PS5, mais c'est surtout en fait une question d'habitude, c'est plus du réflexe pavlovien qu'autre chose. Il n'y a pas des deux côtés, quelque chose qui me transcende véritablement et qui me donne l'impression d'avoir débarqué dans une nouvelle génération.
Bah,
Romain.
il y a une familiarité sur la Xbox Series X. Évidemment, si tu as utilisé une Xbox One, parce que si tu débarques dans l'écosystème Xbox, bon là, ça te paraîtra nouveau de toute façon. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai installé la Series X chez moi, bah, j'avais branché un disque dur externe sur lequel il y avait des jeux déjà Xbox One, parce que comme on a testé la rétrocompatibilité, tout ça, il y avait des jeux installés. En plus, là, quand tu l'allumes la première fois, la console te propose, si elle voit que tu as déjà avec ton compte, tu as déjà été connecté à une console Xbox, elle te propose d'importer automatiquement tes paramètres, etc. Quand tu arrives, là encore, si tu es déjà utilisateur de Xbox One, quand tu arrives sur Series X, eh ben, tu es chez toi, quoi. Tu sais où les choses sont réparties, etc. La seule chose qui change, c'est lié en partie à la nouvelle manette, c'est la gestion des captures. Mais là encore, il y a la mise à jour, elle a été appliquée sur Xbox One aussi. Si les gens utilisent la nouvelle manette sur Xbox One, ils peuvent se retrouver avec une interface qui est totalement identique. Il y a juste le côté Quick Resume, etc., qui est spécifique à la nouvelle génération, qui modifie l'utilisation par rapport à la Xbox One. Mais globalement, c'est la même chose. C'est vrai, ta question de base, c'était quelle interface des deux fait plus next-gen? Moi, j'aurais tendance à dire la PS5 parce que c'est la seule qui change en fait. C'est là où tu as un truc différent de ce que tu avais avant. Il y a des similitudes évidemment, mais quand tu es habitué et que tu as passé des centaines d'heures à jouer sur ta PS4, ben, il faut que tu retrouves tes marques sur PS5. Les choses sont plus forcément situées au même endroit. Quand tu appuies sur le bouton PlayStation sur la manette, ben, tu as deux types de pression maintenant. Enfin, soit tu appuies une fois, je crois, ou soit tu appuies deux fois, ou tu appuies plus longuement, ça fait pas la même chose. Les trucs sont. Il y a un menu maintenant qui apparaît en bas, alors qu'avant tout apparaissait à l'écran en une fois. Ça change un petit peu. Ça va nécessiter de l'habitude. Et aussi, le truc qui fait un peu plus next-gen sur PS5, c'est que tu as ce système de.
d'activité
par jeu, tu sais, genre ouais. Dans un seul et même jeu, tu as plusieurs possibilités qui te sont offertes pour que tu puisses accéder à certains trucs spécifiques à l'intérieur d'un seul et unique jeu. Ça, c'est nouveau.
Oui, les activités dont on peut parler d'ailleurs, hein, ça fait partie des fonctionnalités très spécifiques de la PS5. C'est en fait quand tu te retrouves dans un jeu, tu peux à tout moment en appuyant donc une fois sur le bouton PlayStation, te retrouver avec la barre de contrôle donc qui est tout en bas qui te permet de naviguer entre différentes choses, hein, dont le sélecteur qui permet de passer d'un jeu à un autre très rapidement sans avoir à repasser par le menu principal de la console. Et ben tu te retrouves au-dessus avec ce qui s'appelle les activités. Ce sont des différentes cartes qui vont te dire tiens, il y a tel défi que tu peux encore faire, il y a tel tel chapitre auquel tu peux accéder directement. Ça, c'est le cas pour Astro, par exemple, où on peut choisir le niveau directement. Tu es dans le jeu, et là, tiens, au lieu de retourner dans le hub principal du jeu, bah, tu dis je retourne directement dans ce monde-là, comme je le voulais. Donc, ça fait partie des différentes choses qui sont proposées, avec aussi les accès quand on défile vers les vidéos populaires ou l'accès au DLC ou autre, ce genre de choses, ou les trophées, par exemple. Et donc, oui, les activités, c'est le petit truc en plus. Il y aura aussi pour les abonnés PlayStation Plus la possibilité d'avoir des guides, des vidéos guides. Vous savez, c'est le truc sur lequel on gueulait à l'époque de New Super Mario Bros. U. Ah là là, mon Dieu, des aides en jeu comme ça, c'est pas possible. Là, on le proposera. Même pour Demon's Souls, on l'avait appris la semaine dernière. Et il y aura 180 vidéos pour essayer d'avancer dans Demon's Souls, ce qui est quand même assez, assez énorme. Donc nous, on a pu le voir sur des jeux comme Astro, sur Miles Morales, et Devil May Cry, il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure, et c'est une idée qui est en tout cas de mon côté je trouve assez assez intéressante d'avoir accès comme ça à des choses à grignoter très rapidement sans attente, parce que c'est une des choses dont on n'a pas encore parlé, hein, par rapport aux deux machines, mais c'est vrai que c'est un peu la fin de l'attente. Il n'y a plus ces histoires de chargement, de tiens, je vais aller fumer une clope le temps que GTA V se load complètement ou Days Gone. Là, on est vraiment à un tournant grâce aux SSD qui sont embarqués dans les deux machines, et évidemment, et leurs patates générales aussi, hein, qui aident, notamment la RAM. Et donc voilà, c'est les activités, ouais, ça fait partie des petits trucs très cool, mais on n'est pas encore. Et là, je vais me tourner vers vous, au niveau d'une autre fonctionnalité qui est les spécifiques à la Xbox Series X.
J'ai une question.
J'ai l'impression de parler dans Astérix, oui.
Les vidéos d'astuces dont tu parlais tout à l'heure, ça, c'est réservé aux abonnés PS Plus, hein,
de mémoire. Absolument, oui.
Donc, c'est une précision qui, je pense, avait besoin d'être...
Ah oui, c'était, je l'avais dit, c'était...
J'avais pas entendu.
C'est uniquement pour les abonnés PS Plus que ce sera disponible. Donc voilà, seulement pour les gens qui payent. Et c'est optionnel, donc il ne faudra pas commencer à gueuler en disant « Ah là là, c'est une honte de proposer ce genre de choses. » Bah non, c'est optionnel, tu as le droit de pas y avoir accès. Et donc, tout ça pour dire qu'en face, il y a une option dont tu as... Dis le nom tout à l'heure, Romain, c'est le Quick Resume qui n'existe pas sur PS5. Sur PS5, on pourra, comme auparavant et comme à toutes les consoles modernes depuis peut-être deux générations, c'est-à-dire se mettre en veille et revenir exactement là où on était en jeu si on n'avait pas éteint la partie. C'est le cas sur PS4, c'est le cas sur Switch, c'est le cas sur Xbox One. Là, le Quick Resume, c'est encore autre chose. On est à un autre level avec ça, Romain.
Bah, c'est le même système de base, sauf que tu peux maintenir plusieurs jeux en attente en même temps et les maintenir exactement au point où tu les as laissés. C'est pratique, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui jouent chez toi, qu'il y a certains jeux auxquels tu joues avec ta chère et tendre, d'autres où tu joues éventuellement avec des amis ou des enfants, il y a des jeux auxquels tu joues tout seul. Et c'est vrai que quand tu veux jouer, ça limite l'attente. Peut-être globalement, c'est un truc qui est assez percutant sur cette nouvelle génération de consoles d'un côté d'un autre. Ils veulent nous faire gagner du temps. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que le temps de concentration et le temps d'attention des gens a diminué énormément ces dernières années. Mais là, L'instantanéité, l'immédiateté, c'est vraiment un truc sur lequel ils insistent.
Et il faut dire que personne n'aime les temps de chargement. Hein. Enfin, on va pas se mentir.
Et encore moins maintenant. Encore moins depuis que tu as pu mettre les mains sur les consoles next-gen. Ça, ça a tout changé. C'est comme le passage de la HD de la SD à la HD. Tu n'as pas envie de revenir en arrière à ce niveau-là. Enfin, bref, le quick resume, donc, ça te permet d'avoir plusieurs jeux en suspens, y compris quand tu éteins ta console. Bon, par contre, quand il y a coupure de courant, là, c'est mort. Hein. Il n'y en a eu pas.
Tu dis quand tu éteins ta console, mais quand tu la mets en veille, pas quand tu l'as éteint complètement.
Quand tu la mets en veille, ouais.
Ah donc, oui, parce que j'allais dire, éteindre complètement, ce serait une prouesse à ce niveau-là.
Après, moi, la console, je l'ai toujours laissée en veille. Donc, j'ai eu des coupures de courant qui m'ont permis de confirmer que quand il y a une coupure, ça ne fonctionne plus. Je crois que c'est juste pour la veille. Je ne me souviens plus. J'ai tellement eu le nez dedans pendant des jours et des jours que ce détail m'échappe.
Il faut dire qu'en veille, elle se fait complètement oublier. Hein. Les boutons sont plus en surbrillance, tu as l'impression qu'elle est véritablement éteinte, elle fait plus de bruit.
Oui, t'as pas cette barre lumineuse comme il y avait sur PS4 par exemple qui t'indiquait la console est éteinte, mais elle est en veille malgré tout. Et donc, c'est très pratique parce que, par exemple, quand tu joues tard le soir et que tu mets ta partie en pause, la fête, t'as même plus à. Tu y réfléchis même plus, tu vois, tu te dis, ouais, tu mets ta partie en pause, tu éteins ta console, tu vas te coucher, et le lendemain, quand tu reprends, bah bam, c'est pile là où t'en étais resté. Et si tu avais envie d'avoir une petite partie sur le côté, sur un jeu de course, par exemple, et bah, tu peux la laisser de côté. Et si tu as envie de switcher un peu, bah hop, tu te lances sur l'autre jeu, et là, pas les 15 logos qui arrivent avant le menu principal, lancer la partie, etc. Hop, tu te remets directement où tu en étais. Et ça, c'est cool. Et ça va être pratique aussi quand tu utilises des applications multimédia à côté. Genre, tu te regardes un petit film ou une série sur Netflix, hop, tu as fini, tu repasses sur ta partie, c'est bon. Alors, le quick resume ne fonctionne pas avec le multimédia. Si tu mets ton film en pause, l'application se relance, il va falloir le relancer manuellement, etc. Ça marche que pour les jeux. Mais ça, une fois que tu as terminé le multimédia, ça te permet de repartir sur ton jeu comme là où tu étais resté.
Très bien. Bon, bah, ça fait partie donc des spécificités dont on parlait, avec, tu viens de le rappeler, Romain, un gros accent mis sur l'absence de chargement qui est de plus en plus importante. Alors, on a fait des petits comparos aussi de nos côtés pour savoir quel jeu, mais c'était essentiellement de la rétrocompatibilité. Évidemment, les jeux qui chargeaient le moins longtemps par rapport à la génération précédente, pour l'instant, c'est pas très... pertinent parce qu'il y a aussi des jeux qui peuvent être optimisés au passage, il y a des jeux qui peuvent ne pas en bénéficier du tout, bref, ce sont des choses dont on parlera plus tard, mais en tout cas pour les jeux PS5 sur PS5 et Xbox remarque Xbox Series X, oui, il y a eu Yakuza quand même, là pour l'instant en termes de chargement pour les jeux qui sont next-gen, on est pareil, on est dans quasi néant.
Ah ouais, bah le pour le cas de Yakuza, j'ai pu y jouer donc et sur Xbox Series X et sur Series S aussi, mais aussi sur PS4 Pro. Les différences sont évidentes. Aussi bien quand tu veux lancer une partie depuis le menu principal, quand tu relances ta sauvegarde par exemple, là c'est, je sais pas, deux secondes, peut-être deux secondes avant de relancer.
Quand c'est exactement le même temps dans Assassin's Creed. C'est deux secondes.
Quand tu fais du quick travel d'un point de la via un taxi d'un point à l'autre de la map, là, c'est quasiment instantané. Tu as un fondu au noir. L'écran en fait, de chargement, il a à peine le temps d'apparaître à l'écran avant de redisparaître. Là où sur PS4 Pro, tu as la petite barre, qui se remplit, etc. Tu as bien le temps de le sentir, le temps de chargement. Là, c'est quasiment disparu. Et franchement, c'est tellement agréable, vraiment. Hein. Et je te dis, je pense que ça va être difficile de repasser à la génération précédente avec. Et moi, je vois pas mal de gens sur Twitter, sur les commentaires, sur le site, etc., qui disent les gens parlent que des temps de chargement, genre ouais, à part améliorer les temps de chargement, le launch fait pitié. Bah, je suis désolé, rien que ça, franchement, c'est un plus, mais qui est vraiment pas négligeable.
J'allais y venir justement parce que les lancements des deux machines en termes de line-up, je sais pas, on peut pas dire que ce soit la méga folie non plus.
Mais quel lancement a été une méga folie ? ces dernières générations.
La Super Famicom.
La Switch.
La Switch, c'était un lancement de dingue.
Breath of the Wild, mec.
Rien que Breath of the Wild, c'est suffisant.
Moi, j'aime pas Zelda, donc évidemment, ça...
Oui, parce que... Non, non, mais enfin, là, on peut dire quand même que pour la PS5 et la Xbox Series X, qui ont eu en plus des... pour la Xbox Series X, il y a eu des reports, notamment The Medium, qui était un des jeux qui devait arriver en fin d'année, qui s'est reporté. On a Cyberpunk qui devait sortir sur les deux aussi, enfin, qui aurait été compatible sur les deux le jour J de la PS5 qui arrive le 10 décembre. On est quand même sur quelque chose d'un petit peu moyen, surtout en exclusivité, côté Xbox Series X.
Mais yes. Moi, tu vois, pour le coup, enfin, je trouve que c'est meilleur que ce qu'on a pu avoir rien que sur PS4 et sur Xbox One. Parce que déjà, si tu te bases juste sur la PS4, je ne me souviens plus de tous les jeux de lancement, mais tu avais quoi ? Tu avais Infamous, Second Son, je crois, ouais. Avec, tu avais le FPS, la
Killzone, machin.
Là, tu as Astrobot, qui utilise très bien les fonctionnalités de la manette et c'est gratuit, c'est fourni avec. T'as Miles Morales qui est effectivement un jeu cross-gen, mais bon, quand tu vois les différences que t'apporte technologiquement la PS5, enfin si t'es décidé de toute façon à t'acheter une PS5 Day One, enfin t'as tout intérêt à te prendre la version next-gen. Je vois pas, genre, si tu t'achètes la PS5, je vois pas pourquoi tu te prendrais Miles Morales sur PS4, tu vois. Enfin, c'est pas logique. Et à côté de ça, t'as tous les jeux d'éditeurs tiers, mine de rien, qui proposent des versions, bon, c'est du cross-gen, mais malgré tout, les versions sont plus avancées sur les nouvelles générations. Et c'est pareil côté Xbox. Par exemple, on en parle assez peu, mais t'as Gears Tactics. Alors, c'est du tactical, certes, mais c'est du tactical de qualité. Et franchement, il n'est pas sorti avant aujourd'hui sur console. Donc là, il est dispo à la fois sur Xbox One et sur Series X. Ben, si tu as le choix, tu y joues sur Series X. Parce que
ça reste quand même un luxe, hein, mine de rien. Parce qu'effectivement, on a plein de jeux auxquels on peut jouer, sur lesquels on peut faire du test, du benchmark des nouvelles consoles. C'est quand même de la cross-gen à 500 €. Tu vois, ça reste un prix d'accès qui est quand même assez élevé pour ne pas, entre guillemets, à part Demon's Souls sur PS5 et effectivement Astro's Playroom, t'as pas de vraie exclusivité qui te fait dire, ok, dès le départ, tout le jeu a été pensé, structuré autour des fonctionnalités de la console. On imagine qu'avec Ratchet & Clank, on va vraiment découvrir justement ce que ça peut apporter.
Et Gran Turismo, et Horizon, et ça c'est l'année prochaine.
Donc là... pour marketer justement le truc, t'es quand même assez restreint, je trouve, dans l'offre que ça propose. Et on a le problème pour moi, c'est que la génération d'avant a duré, mais a cartonné aussi. Donc, on a des dizaines et même plus d'une centaine de millions de machines écoulées. Donc, forcément, aucun éditeur n'avait envie de se couper d'un Noël où t'allais pouvoir vendre des jeux sur une génération et sur l'autre. Donc, forcément, tu te retrouves sur un espèce d'entre-deux parce que si tu sors un jeu qui est exclusif véritablement à la PS5 ou à la Series X, tu vas en vendre quelques centaines de milliers tout au plus. Donc, c'était compliqué de l'espérer.
Ah bah, tu vois que Sony a complètement changé son fusil d'épaule à ce sujet-là en cours de route. Hein. La pandémie, le parc installé évidemment de PS4, il est tel qu'il est. Mais malgré tout, je pense que la pandémie, ça les a incités, voyant les habitudes de consommation des joueurs pendant les confinements, etc. Il y a quand même beaucoup de gens sur PS4, y compris des acheteurs tardifs. Et ça serait bête de les laisser de côté tout de suite.
Et de leur laisser penser que rien de neuf n'arrivera, puisque maintenant on sait qu'on a encore Horizon 2 et des grands jeux qui vont arriver sur PS4.
Mais tu vois, c'est vrai que c'est indéniable que si tu bases uniquement tes intentions d'achat sur le contenu que tu ne peux pas avoir ailleurs, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas vraiment de raison profonde de te procurer ou une Xbox Series X, ou une Xbox Series S. Mais des joueurs qui, de toute façon, les joueurs les plus hardcore qui achètent Day One, de toute façon, il y en a, et les chiffres le prouvent. Et ben ça, il n'empêche que si tu as de toute façon décidé de t'acheter une console next-gen Day One, tu auras de quoi faire. Tu auras de quoi t'occuper et de profiter de certaines fonctionnalités et du confort de jeu qu'apporte qu'importent les consoles next-gen.
Et en plus, mais on passe à côté de l'effet baffe technique, tu sais, qu'on a pu connaître quand une véritable nouvelle console sort. Oui. Ouais, je pense toujours à la Xbox 360, qui, quand elle arrive, est la première console avec une image haute définition, où là, tu vois tourner n'importe quel jeu, tu te dis, ah ouais, j'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu un tel niveau de détail, etc. Là, Miles Morales a beau être très beau, très fin sur PS5, t'as pas l'impression de basculer dans complètement autre chose, tu vois. Et je me dis que, côté grand public, si tu lâches 500€ dans une machine, t'espères t'attendre à un espèce d'effet waouh et de te dire que ça va au-delà, justement, de temps de chargement hyper accéléré, aussi agréable soit-il.
Après, pour être un peu moqueur, y a certaines personnes qui ont l'effet waouh sans vraiment savoir de quoi elles parlent.
Aussi.
Donc ça, c'est.
Mais tu vois ce que je veux dire. T'as l'effet next-gen que tu es en droit d'attendre normalement quand tu branches ta toute nouvelle machine, que ce soit un gimmick de gameplay, je pense au gamepad, tu vois, ou véritablement une image qui tue la tronche. Là. T'as l'impression qu'on passe quand même un tout petit peu à côté de cet effet-là. Mais peut-être qu'il ne faut plus attendre ce genre de truc aussi.
Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Et ça, les consoles sont bloquées par l'évolution de la technologie, en fait. C'est, les gaps sont plus suffisamment importants pour permettre d'avoir ce genre de...
Alors, est-ce que c'est pour ça que Sony axe sa communication sur la DualSense, qui pour l'instant n'est pas forcément très, très exploité non plus, et j'ai envie de dire Microsoft, plutôt sur le catalogue rétrocompatible et le Xbox Game Pass.
Certainement, de toute façon, ils cherchent tous des arguments pour se démarquer et pour dire, voilà, nous, on propose quelque chose que les autres n'ont pas, et voilà l'intérêt pour vous de jouer sur notre machine. Et c'est vrai que la DualSense, elle propose clairement quelque chose que non seulement la Xbox n'a pas, mais que même la PS4 n'avait pas non plus. Après, à part Astrobot, pour l'instant, est-ce que des jeux l'exploitent vraiment ? Et moi, j'ai peur vraiment que les utilisations des fonctionnalités DualSense, elles soient relativement limitées, même sur le long terme. Alors, il y aura les exclusivités PlayStation AAA qui l'utiliseront certainement par-ci par-là certaines fonctionnalités, mais une utilisation aussi approfondie et complète qu'Astrobot, j'ai du mal à penser que ça soit ultra répandu. Quand tu vois par exemple le Rumble HD sur Switch, qui est globalement assez peu utilisé, tu te dis aussi que les éditeurs tiers qui font des jeux multiplateformes, à moins d'un accord commercial avec Sony
ou d'un coup de pouce financier,
voilà, j'ai du mal à les imaginer qu'ils prennent vraiment le temps et qu'ils fassent l'effort d'intégrer des fonctionnalités spécifiques.
C'est au constructeur de faire son boulot aussi et de filer des tuyaux et des outils pour l'exploiter correctement. Effectivement, enfin, c'est de leur point de vue, ils auraient tout intérêt à pas s'immiscer, mais à nouer des partenariats pour justement montrer que ça peut avoir un véritable apport. Mais ça veut dire effectivement que les éditeurs doivent débloquer un budget supplémentaire ou prendre un tout petit peu plus de temps pour cette version PS5.
L'utiliser spécifiquement à condition que ça ne nécessite pas une quantité de travail et de main-d'œuvre largement supplémentaire par rapport à la version que tu développes sur Xbox, que tu développes sur Xbox à côté de ça.
C'est peut-être le coche qu'a loupé Nintendo, tu vois, à ce niveau-là. Peut-être qu'ils n'ont pas été suffisamment avenants avec tous leurs partenaires et les tiers pour montrer ce que ça pouvait apporter et les convaincre qu'il fallait y passer peut-être un petit peu de temps.
Moi, pour le ce que j'ai pu faire tout le premier monde Astrobot, mon expérience de jeu sur PS5 next-gen se limite à ça pour l'instant, et j'ai trouvé l'effet vraiment, enfin, l'effet top, et le potentiel, il est clair, hein, de ce que tu peux faire avec ça. Après, est-ce que ça va vraiment être exploité sur le long terme ? Je doute. À côté de ça, parce que Plume, tu parlais du Game Pass, etc., ça, le potentiel du Game Pass sur le long terme, il est évident, hein, et vu les achats de studios que Microsoft fait au fur et à mesure, je pense que le Game Pass va être, comment dire, fourni en jeu tout le long. De toute façon, la vraie stratégie de Microsoft sur le long terme, elle est là, elle est sur le Game Pass, hein, elle n'est pas sur les consoles. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je pense que ça ne m'étonnerait pas que à la fin de la génération, on se rende compte qu'il y a eu plus de Xbox Series S vendus que de Xbox Series X. Et d'ailleurs, Phil Spencer semble partager ce ressenti aussi. Donc, le Game Pass, il est ce qu'il est, on le sait, et il va monter en puissance au fur et à mesure. À côté de ça, il y a plus d'incertitude du côté, je trouve, de la DualSense. Par contre, là où il n'y a pas d'incertitude, c'est qu'on sait que Sony va balancer des AAA exclusifs qui déchirent pendant toute la génération. Ils l'ont fait sur PS4, ça a marché, ça a très bien marché pour eux, et je ne pense pas qu'ils s'éloignent de ce modèle-là au cours de la génération à venir, enfin la génération qui commence maintenant.
Très bien, on a parlé vite fait des manettes, parce que ça peut être aussi des choses qu'on peut comparer. La DualSense, donc, pour ses fonctionnalités, Rumble HD, etc. Mais si on parle un petit peu de juste la prise en main globale, pareil, vous avez une préférence pour l'une des deux manettes ou ça mérite encore d'être creusé?
Bah là, elles sont tellement différentes que c'est assez difficile de dire je préfère celle-ci à celle-là. Ça c'est pas nouveau, hein, ça remonte à plusieurs générations. J'ai toujours une petite préférence pour les sticks pas face à face. Donc je préfère le placement des sticks sur la manette Xbox. Je trouve ça à titre purement personnel plus confortable, mais j'ai jamais eu de problème à jouer avec mes DualShock précédentes. Ça fonctionne bien. Et la DualSense, elle est très agréable à prendre en main. Quand les fonctionnalités sont vraiment utilisées, bah tu le sens vraiment en main. Et à côté de ça, bah la nouvelle manette Xbox, c'est une belle évolution de la. C'est pas une révolution. Elle n'est pas aussi changeante que la DualSense l'est par rapport à la DualShock 4, mais c'est une belle évolution de la manette Xbox One. Les petits grips sur les poignets, sur les gâchettes, je les trouve agréables. Je trouve que le bouton share, il était temps qu'il propose quelque chose de similaire. La nouvelle croix directionnelle, elle est plaisante aussi. Donc c'est une très belle manette. C'est juste qu'elles sont vraiment tellement différentes l'une de l'autre que c'est assez compliqué de dire je préfère celle-ci à celle-là. Et là encore, je pense qu'une préférence pourra éventuellement se faire en faveur de la manette DualSense si les jeux l'utilisent beaucoup. S'il y a genre trois pauvres jeux qui utilisent les effets, ce sera plus difficile de se dire, enfin, ça sera plus facile de se dire bah, tout ça pour ça finalement, tu vois. Mais il faudra voir sur le long terme.
Thomas.
Moi, je vais faire mon Jacques Martin, et je le pense vraiment, c'est que pour moi, d'un côté comme de l'autre, ce sont les meilleures manettes que chacun des deux constructeurs ait pu penser et produire. Pour tout ce que disait Romain, la DualSense apporte en termes de sensations physiques, de retour haptique, quelque chose de très intéressant, l'ergonomie est bonne, et à côté de ça, Microsoft continue sur une manette qui est peut-être la plus fantastique qu'on ait pu tenir en main, qui est ergonomique, qui est très très bien finie, et qui, tu le disais aussi, est dotée d'une croix multidirectionnelle qui est excellente, je trouve, là où sur DualSense, on est quand même sur... ce que fait Sony en la matière, ça n'a jamais été vraiment fantastique, et pour moi qui suis un mordu de platformer 2D, de versus fighting, avoir une croix aussi précise que celle de la Xbox Series X ou S, c'est un vrai plus pour en tout cas ce type de jeu-là, même s'ils sont tous optimisés aujourd'hui pour le maniement au stick, vraiment en termes de précision, ça reste incomparable de mon point de vue, et sur ce point-là précisément, la manette de la Xbox Series s'en sort quand même vachement mieux que la DualSense. Donc pour moi, les deux sont très différentes, mais vraiment très abouties dans leurs domaines respectifs.
Très bien. Bon, écoutez, messieurs, je pense que on va pouvoir passer à la question finale, la toute dernière. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour des deux hardware, enfin les trois, parce qu'on oublie, je vais oublier la S, mais c'est pas volontaire, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste parce que elle est tellement petite qu'on le... Voilà, j'ai pas passé de temps dessus, puis elle est tellement petite qu'elle se fait vite oublier. Mais bref, et puis elle est pas aussi next-gen que la Xbox Series X, évidemment, puisqu'elle a quelques limitations que n'a pas sa grande sœur. Mais bref. Si on veut de la next-gen maintenant, est-ce que ça a vraiment du sens? Voilà, c'est ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est vraiment le coup? Là, peut-être pas Day One parce que ce n'est pas possible, mais pour cette fin d'année, avoir une console next-gen, est-ce que c'est vraiment indispensable?
Il faut s'entendre sur le thème indispensable, mais a priori non. Je veux dire, avec tout ce qu'on a dit, le line-up qui est essentiellement cross-générationnel, le prix de lancement aussi qui est quand même assez prohibitif, qui plus est en 2020 avec le Covid, avec un taux de chômage qui grimpe, etc. etc. Alors, c'est pas du tout une critique des gens qui se la procureraient Day One. On a tous connu l'excitation de se procurer une console au lancement, d'être parmi les premiers à découvrir justement son interface, ses nouveautés, etc. Mais il n'y a absolument rien d'indispensable pour moi d'un côté comme de l'autre. C'est effectivement très confortable de se passer des temps de chargement, de tout un tas de choses. C'est un confort optimal. Et Romain le disait, c'est très compliqué de revenir sur les consoles de la génération actuelle, même dans leur version boostée. Hein. Même la PS4 Pro, maintenant, je la trouve assez lente en termes de performance. Mais à côté de ça, à part Demon's Souls sur PS5, il n'y a a priori aucun jeu auquel tu ne pourrais pas jouer ailleurs pour l'instant. Donc, si je comprends l'intérêt de vouloir changer de hardware, etc., mais pour moi, il n'y a absolument rien d'indispensable à se procurer là maintenant, fin 2020 et même dans les premiers mois de l'année prochaine. L'une des deux consoles, elles sont extrêmement chères. On sait aussi d'expérience que les modèles de lancement, parfois, essuient des plâtres, chez l'un comme chez l'autre, qu'il y a des petites modifications après dans la fabrication ou dans les composants qui vont être utilisés qui font que les modèles qui sortent d'usine dans les 18 à 24 mois qui suivent sont quand même vachement plus performants et tiennent surtout beaucoup plus la durée, enfin tiennent sur la durée si c'est votre objectif. Bon, pour ceux qui hésiteraient, continuez à hésiter, prenez votre mal en patience, attendez justement que les gens essuient les plâtres pour vous. Il n'y a absolument pas d'urgence à s'en procurer une. Et de toute façon, c'est un exercice qui est un petit peu difficile, même si effectivement on voit que la Series X est de retour en stock chez certains revendeurs. Il y a certainement d'autres choses beaucoup plus indispensables en cette fin d'année 2020 que d'acheter une console de nouvelle génération. Et ça n'est pas une critique.
Toi, tu es toujours là pour casser l'ambiance de toute façon, Thomas.
C'est mon boulot, hein, tu m'excuses.
C'est vrai.
C'est le titre qu'il y a sous mon nom, là. Enfin,
casseur d'ambiance.
Briseur de couilles.
Ouais. Moi, par nature, je suis impatient. En termes de consumérisme, je suis un consommateur impatient et j'aime bien avoir les produits high-tech au moment où ils sortent. Donc, si vous avez les moyens et l'envie de vous procurer une Xbox Series X ou une PS5 Day One, je pense que vous ne le regretterez pas. Je pense qu'il y a suffisamment de quoi jouer aussi bien avec les jeux cross-gen qu'avec la rétrocompatibilité, parce que je n'ai jamais rencontré personne qui n'a pas de jeu en retard, qui n'a pas des trucs auxquels il avait vraiment envie de jouer, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Sachant ce que les deux consoles apportent en termes de temps de chargement et parfois même d'amélioration technique autre. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, jeu par jeu. Tu vois, même sur les jeux, pour moi, l'accélération des temps de chargement et tout ça, elle est telle que, enfin, son impact est tel que ça a de l'importance. Je trouve que ça, les gens vont vraiment gagner quelque chose en jouant sur les nouvelles machines. Donc voilà, si vous avez les moyens et l'envie, je pense que vous ne le regretterez pas d'un côté comme de l'autre. Après, pour le reste, je suis totalement d'accord avec Thomas. Si vous êtes déjà équipé en Xbox One ou en PS4, globalement, les jeux qui sortent en cette fin d'année, les plus gros, à part Astrobot et Demon's Souls pour le remake, les jeux qui sortent sur cette fin d'année d'un côté comme de l'autre, vous pouvez y jouer sur les consoles actuelles. Alors, oui, il n'y aura pas toutes les améliorations technique. Oui, vous aurez des temps de chargement plus longs, mais il n'empêche que vous ne serez pas laissé de côté ludiquement parlant. Vous pourrez parler de Miles Morales avec votre pote qui s'est déjà acheté la PS5 parce que vous aurez fait l'aventure tous les deux. Vous n'aurez pas les mêmes ressentis technologiques, mais malgré tout, vous pourrez y jouer tous les deux. Pareil pour Yakuza. Moi, Yakuza, c'est le jeu qui m'est le plus cher là, à l'instant T sur le jour de lancement. Alors oui, sur PS4, il est en 30 FPS, il est quand même moins fin et moins beau, il y a des temps de chargement, mais vous pouvez le faire malgré tout, vous pouvez passer vos 50 heures dessus sans aucun problème. Donc si, d'un point de vue budgétaire, comme c'est mon cas par exemple, vous ne pouvez pas passer tout de suite à la next-gen, eh bien, vous ne serez pas laissé sur le bas-côté et pendant que vos potes pourront parler des jeux. Donc ça, c'est un argument non négligeable. Et mine de rien, sur les jeux de l'année prochaine, il y a quand même encore pas mal de flou en termes de date de sortie. Pour certains, on nous dit 2021, juste 2021, et on sait ce que ça veut dire quand on voit les dates de sortie de Cyberpunk. On sait que les choses peuvent changer encore pas mal. Pour un jeu comme le nouveau God of War, on n'a pas de date de sortie tout court.
On a 2021, mais c'est tout.
Ils avaient dit 2021, je me souvenais plus.
2021, mais ça pue le... Non, en fait, voilà. On vous dit 2021 pour que vous achetiez la console. Hein.
Voilà, moi, je serais pas étonné que ça soit décalé. Halo Infinite, de l'autre côté, c'est pareil, c'est un jeu que j'attends énormément. Mais vu la situation chaotique que ça a l'air d'être chez 343, est-ce que ça sera vraiment 2021 comme ils l'ont promis ou repoussé encore par la suite? Donc, les faits nous donnent des raisons d'attendre. Voilà, c'est aux joueurs de choisir de placer leur priorité. Je veux pas dicter quoi que ce soit aux gens. À vous de voir. Je dis juste que si vous avez les moyens et que ça ne vous cause, que ça ne vous fera pas défaut, par exemple, si dépenser 500€ sur une console, ça vous causera pas de tort par la suite ailleurs sur des sujets plus importants, je pense que vous vous amuserez, vous n'aurez pas de regrets.
Voilà. Thomas, tu voulais ajouter une chose?
Oui, je veux juste remettre un peu de positif pour paraître un peu moins chiant. Parce que Romain a cité pour moi vraiment l'exception, le jeu que je vais me refuser de faire sur Current Gen pour vraiment en profiter, c'est Cyberpunk 2077. Mmh. Là, pour le coup, je pense qu'effectivement, vu la manière dont travaille CD Projekt, vu l'ambition justement du jeu, de son monde ouvert, etc., là, pour le coup, même s'il va être dispo sur Current Gen et qu'il sera, à mon avis, tout à fait jouable, puisque The Witcher 3 a été une expérience absolument fantastique, je pense que je vais patienter pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions pour véritablement en profiter. Donc, si comme toi, mon cher Plume, vous avez vos yeux rivés justement sur Cyberpunk et que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, ça peut-être être le premier titre qui véritablement va justifier de passer sur une nouvelle génération. Toi, t'en profiteras sans doute sur PC, donc dans très bonnes conditions aussi. Mais voilà, Romain a cité le contre-exemple qui, pour moi, va me faire patienter un petit peu et attendre d'acheter l'une des deux consoles pour véritablement en profiter.
C'est bizarre parce que j'étais sûr que c'était Call of Duty pour toi. C'est vraiment, vraiment très étrange.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais
c'est bizarre. Bon, eh ben écoutez, merci. Donc vous aurez compris, grâce à Romain et Thomas, que ce sont des consoles très bien pour le passé, des consoles très bien pour le présent, pour le futur. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Est-ce que je résume bien la situation?
Non, elles seront bien pour le futur aussi. C'est juste qu'on ne sait pas quand ce futur va arriver.
Voilà, exactement. C'est ça. Le futur, normalement, c'est déjà demain, nous disait une pub, mais là...
C'est la question qu'il faut se poser.
Voilà, exactement. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, on va pouvoir passer au jeu de la semaine, tout simplement. Alors, les jeux de la semaine, c'est pareil, on reste dans la next-gen, messieurs. On ne va pas parler de Devil May Cry 5 Special Edition que Johnny Wan a testé et que vous pouvez parfaitement lire le test sur Gameblog, il n'y a pas de problème. Pareil pour Astro's Playroom, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, le test est disponible aussi, allez le voir sur Gameblog. On ne va pas s'attarder non plus trop longtemps, mais on va parler quand même, on va mettre quelques mots sur Yakuza Like a Dragon et Assassin's Creed Valhalla. On va commencer par toi Romain avec Yakuza Like a Dragon. Parce que c'est le 7e épisode d'une série que tu adores, qu'il est donc disponible sur PS4, donc ancienne génération, mais aussi sur Xbox Series X. C'est un des jeux de lancement de Xbox Series X et Series S. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, à part qu'il est génial.
Sur Xbox One et sur PC.
Ah oui, il est aussi sur Xbox One et PC.
En fait, il est disponible partout, sauf sur Switch et sauf sur PS5. Mais vous pouvez y jouer aussi sur PS5 via la rétrocompatibilité PS4, mais les mises à jour, les apports next-gen sur PS5, ça sera en mars de l'année prochaine. En tout cas, la version next-gen, elle est exclusive à la Xbox Series X et Series S pour l'instant. Alors, ce que je peux en dire brièvement, c'est que déjà, c'est en français. C'est le premier épisode canonique de la série principale à être disponible en français depuis le premier Yakuza sur PS2. Donc, ça a quand même ça commence à remonter. Je compte pas Judgment parce que Judgment c'est un spin-off qui est un peu à part, mais en tout cas donc c'est en français avec une très bonne traduction en français. Je me suis marré vraiment avec certaines répliques par moment. Ils ont fait du bon boulot.
D'ailleurs, tu viens de le dire, tu l'as mis dans les on aime évidemment la traduction française. Hein.
Oui.
Bien sûr. Bah, je vais aller dans le test et je vais faire un commentaire pour savoir si c'est en français ou pas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ce genre de choses.
Ah, mais
je
le fais aussi. Les gens continuent à me poser la question sur Twitter. Hein.
Bah,
ah,
évidemment.
Oui, est-ce qu'il est en français?
Ouais.
C'est pas faute de le dire depuis des. Omelette du fromage. Et tout Raphaël, joie de vivre.
Ouais. Les croissants.
Camembert. C'est en français, c'est bien traduit. Et c'est un pari qui est super, super audacieux au sens où c'est un RPG au tour par tour. Mais c'est un RPG au tour par tour différent de ce qu'on a pu avoir dans d'autres séries, au sens où ce n'est pas deux équipes sur des plans fixes. Ce sont des combats qui continuent de se dérouler dans le monde vivant de Yakuza, qui continuent de bouger derrière eux. D'ailleurs, eux-mêmes, les personnages bougent en permanence pendant le combat, y compris quand ce n'est pas leur tour. Ce qui fait que ça ajoute pas une certaine urgence, mais un petit côté stratégique et une notion du timing qui n'y aurait pas forcément dans un RPG traditionnel, au sens où, par exemple, en début de combat, les ennemis vont être quand même assez proches les uns des autres. Et là, si tu as en fonction des faiblesses de différents personnages, si tu as une attaque groupée qui permet de faire des dégâts de masse à plusieurs ennemis à la fois, bah, tu vas avoir tout intérêt à faire cette technique rapidement pour pouvoir aller les frapper au moment où ils sont proches et donc en toucher le plus grand nombre aussi. Si tu es à côté d'une route, par exemple, tu peux aussi essayer de faire une attaque qui va envoyer valdinguer ton adversaire, parce qu'avec un peu de chance, peut-être qu'une voiture va passer à ce moment-là, et s'il percute la voiture au moment où tu l'envoies valdinguer, bah, ça va faire des dégâts supplémentaires. Et aussi, RPG oblige, il y a le côté groupe. Avant, dans Yakuza, tu dirigeais un personnage à la fois. Là, tu as ton parti, on va dire, qui est avec toi. Et de différentes manières, tu peux améliorer le rapport que Ichiban, donc le héros, entretient avec les personnages de son parti. Et plus les liens se resserrent, et bien plus ils vont être efficaces en combat. Et par exemple, si tu as suffisamment augmenté les liens avec un personnage et que tu envoies valdinguer ton adversaire et qui tombe par terre à côté d'un autre personnage de ton groupe, et ben ce dernier va faire une petite attaque bonus, genre il tombe à côté, bah bam, il va lui mettre un petit coup, il va lui mettre un petit coup au passage pour augmenter les dégâts. En augmentant les liens aussi, ça va débloquer des attaques spéciales combinées. Il y a tout un tas de trucs, et quelque chose qui m'a vraiment impressionné dans le système de RPG de Yakuza Like a Dragon, c'est qu'il n'a pas été genre mis par-dessus comme ça à l'arrache. Il est vraiment très travaillé. Et comme on sait que dans Yakuza, c'est un monde dans lequel tu peux faire énormément de choses, aussi bien aller au resto que faire des quêtes annexes, que prendre part à des mini-jeux, tout a une influence sur le système de combat et sur les capacités d'Ichiban. Par exemple, si tu vas au resto avec tes groupes, avec ton groupe, et que tu commandes un truc de bouffe, bah, c'est un peu du hasard au début, hein. Et que tu commandes un truc de bouffe spécifique, et ben ça va peut-être déclencher un dialogue spécifique où un des personnages va dire « Ah ouais, ce truc-là, ça me rappelle des souvenirs. » Et donc, ça va déclencher une discussion qu'il n'y aurait pas forcément normalement dans le resto. Et à la fin, et ben ça va augmenter non seulement certaines stats d'Ichiban, mais aussi augmenter le lien avec ce personnage en particulier. Quand tu réponds de certaines manières à des dialogues aussi, par exemple, ça peut augmenter ta stat de gentillesse. Et ta gentillesse, ça va t'empêcher de subir certaines altérations d'état en combat face à certaines attaques spécifiques. Tu as aussi une sorte d'ANPE.
Tu es en train de me décrire un système RPG ultra fouillé qui n'a rien à voir avec un Yakuza d'habitude.
Ah ben c'est ultra fouillé. Et en fait, ils n'ont pas pris la transformation en RPG à la légère. Je te dis, ils se sont pas juste contentés de transformer les combats en tour par tour. Ils ont ajouté des nuances et des niveaux de gestion que même dans les précédents Yakuza, tu n'avais pas, en fait. C'est vraiment un RPG très travaillé avec, malgré tout, c'est clairement un Yakuza. Donc, tu as l'association entre quête principale super sérieuse et quête annexe et activité annexe complètement débile dans certains cas. Donc c'est très travaillé, et, et, Et tu sais, par exemple, je prends l'exemple de Persona 5, qui est une pointure du JRPG. Par exemple, si tu emmènes un personnage au ciné, bah oui, tu peux augmenter ton rapport avec ce personnage-là. Mais tu vas juste être assis et tu as une cutscene où ils te décrivent vaguement ce qui se passe pendant le film que tu regardes, mais c'est tout. Yakuza, si tu vas au ciné, tu as un mini-jeu de rythme où tu dois empêcher Ichiban de s'endormir. T'as des brebis qui apparaissent et qui essayent de le faire s'endormir comme ça, et toi tu dois réagir vite pour le maintenir son éveil, et ça aura des influences sur ses stats après le mini-jeu.
Thomas, t'as une question peut-être?
Oui, en fait, quand je t'entends parler en fait de la série et de tout ce qu'il y avait derrière, la multiplicité des quêtes, les mini-jeux, tout ça, on a l'impression qu'en fait, ça a toujours été une formule parfaite pour en faire justement une déclinaison JRPG. Tous les éléments, justement, ont l'air d'être là. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'on a l'impression que c'est assez logique finalement que la série ait évolué de sa forme d'action beat'em all à un jeu de rôle vraiment à la japonaise. Et est-ce que tu penses du coup que ça peut faire venir un nouveau public qui ne connaîtrait pas forcément la série ou qui n'aurait pas forcément accroché à l'ancienne formule? Est-ce qu'on peut s'y retrouver justement avec cette nouvelle approche?
Alors, je crois que j'en ai parlé dans mon test. Et d'un côté, je me dis que les gens totalement hermétiques au tour par tour, parce qu'il y en a, eux pourront être repoussés. Après, je pense que les gens relativement hermétiques ou pas habitués au JRPG qui lui donneraient sa chance malgré tout pourraient être surpris, parce que vu les thématiques, vu l'environnement, parce que mine de rien, dans un JRPG, les thématiques, l'univers, ça peut repousser. Genre le chara-design, etc.
Et là, on sort complètement de la fantasy. Là, on est dans quelque chose de très actuel et de très réel.
Voilà, on est dans un jeu ancré dans le Japon d'aujourd'hui, avec des thématiques qui concernent la société japonaise et des environnements réalistes, des utilisations d'objets du commun comme item de RPG classique. Tu vois, le plateau de sushi qui va te redonner des points de vie, la petite boisson énergétique qui va te redonner des points de magie, etc. Là, ce sont des exemples basiques. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais genre le sex shop où tu peux acheter ta cravache qui va te servir d'arme et qui servira à une classe spécifique de personnage. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la gestion des classes, mais ça j'en parlerai après pour terminer avec ta question. Je pense qu'effectivement il y a des fans de JRPG qui n'étaient pas forcément intéressés par Yakuza avant, qui pourraient être séduits. En fait, il y a plein de cas de figure qui font qu'il pourrait y avoir de nouveaux joueurs qui s'intéressent à Yakuza via ce JRPG. Il y a vraiment une catégorie de fans de la première heure qui sera repoussé, je pense, par le côté tour par tour, même si finalement le truc est tellement bien fait que tu peux très facilement t'y faire et comprendre et apprendre à apprécier ce système. Mais ça peut attirer. En fait, je l'ai mis dans mon texte, je ne me souviens plus texto de ce que je dis, mais quelque chose du genre, ça peut être le RPG pour les gens qui n'aiment pas le RPG. Tu vois, ça peut être ça. Et donc, je le disais brièvement, le système de classe est bouleversé, en fait. Tu vas à la NPE, l'équivalent japonais de la NPE, et c'est là où tu changes pas ta classe, tu changes ton job. Et par exemple, quand chaque personnage a accès à plusieurs classes, Ichiban, lui, peut être je crois que sa classe de base, c'est genre loser ou brigand à deux balles ou un truc dans ce genre-là, avec les capacités qui vont avec. Au bout d'un moment, tu débloques la classe hero, parce que Ichiban, c'est un fan hardcore de Dragon Quest. Pendant tout le jeu, il fait des références à Dragon Quest et ils font des parallèles, lui et d'autres personnages, à ce qui se passerait dans un RPG, en fait, correspond à certaines situations de notre vie, de tous les jours et de leur aventure à eux. Et donc ensuite, tu as hôte comme catégorie, genre hôte de bar à hôte, quoi, où en fait, une de ses attaques, c'est qu'il va sortir une bouteille de champ qui va secouer et qui va asperger l'ennemi avec, et ça va l'enrhumer. Ça va enrhumer l'ennemi, et donc à chaque tour où c'est à l'ennemi d'attaquer, il va éternuer et ça va lui faire baisser ses points de vie. Donc tu vois, t'as aussi le flic qui a une matraque électrique, et donc là, si tu es sensible à l'électricité, bah tu vas faire plus de dégâts. Enfin, tu vois, tous les trucs sont rapportés à des trucs réels. Bon, après, il y a des trucs un peu plus surréalistes, mais globalement, ils ont réussi à tout rattacher au monde réel, réaliste de Yakuza, et c'est super habile.
Bon, bah écoute, ça fait super envie en tout cas quand t'en parles, d'autant plus sur Xbox Series X, donc puisque
Après,
c'est
c'est
la
toujours très
version.
bavard, hein. C'est toujours très, très, très bavard. Je sais que certains étaient repoussés par les scènes cinématiques à rallonge qu'il pouvait y avoir dans les Yakuza. Et là, c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de gameplay, mais il y a beaucoup de jeux à côté de ça. Et autre élément qui, je pense, mérite d'être souligné, c'est que outre les mini-jeux créés spécialement pour le jeu, donc genre le baseball, le golf, le cinéma dont je parlais tout à l'heure, le karaoké, vous avez une tonne de jeux d'arcade Sega complets jouables totalement. Par exemple, vous avez la version arcade de Virtua Fighter 5, la dernière révision, qui est intégralement in-game, qui est jouable à deux, par exemple.
Ça marche.
Vous avez VF2, vous avez Outrun, vous avez Hang On, vous avez Space Harrier, vous avez Fantasy Zone, enfin vous avez un florilège de jeux Sega qui sont disponibles intégralement dans Yakuza. Les salles d'arcade, ce ne sont pas des mini-jeux, ce sont des vrais jeux complets dedans. Donc c'est un
Très
peu
bien.
la cerise sur le gâteau.
Et donc, je disais, qui fait d'autant plus envie que sur Xbox Series X, donc il n'y a pas de chargement, comme tu nous le disais tout à l'heure. Donc,
Pas
ça
de
fait un peu.
chargement, une
Ou
résolution
presque.
très 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 limitée et une résolution plus élevée aussi et du 60 FPS. Et vraiment, le 60 FPS, c'est vraiment un bonus non négligeable.
D'accord. Et donc, ce serait pour toi, en quelques mots, le RPG de cette fin d'année, le RPG de l'année même peut-être?
Clairement, un des RPG de l'année. Et là, j'essaye de voir ce qui sort sur cette fin d'année en termes de JRPG. Je pense que si c'est votre genre de prédilection, c'est un peu un incontournable.
Très
Et
bien.
je dirais une dernière chose, peut-être un petit bonus, que ceux qui n'aiment pas le JRPG mais qui apprécient la série des Yakuza et ses spin-offs, genre Judgment, il y a de bonnes chances que vous ayez du jeu d'action à l'ancienne dans les temps à venir, en fait. Voilà.
Ça tease beaucoup. Bon. On va pas en dire trop, parce que après tu pourrais te retrouver avec un
Un
monsieur qui te
Yakuza qui
suit
est
dans la
caché chez
rue,
moi. Ouais.
et ça serait vraiment dommage. Thomas, on va passer maintenant
Oui, tu passes à Yakuza.
à
Je n'ai rien fait.
l'autre jeu de la semaine. C'est évidemment Assassin's Creed Valhalla qui sort en même temps que eh bien, la Xbox Series X,
Tout à fait.
évidemment, mais qui est disponible lui aussi sur à peu près tous les supports. D'ailleurs, tu y as joué sur plusieurs supports.
Oui.
Et d'ailleurs, on peut le dire en préambule, c'est pas la même chose quand on y
Tout
joue
à
sur
fait.
PS4 et quand on y joue sur Xbox Series X.
C'est effectivement pas forcément le même jeu pour reprendre les dires d'un de nos anciens rédacteurs chers à notre cœur. C'est pour ça que vous avez deux tests en fait différents. Vous avez la version current gen et la version next gen, alors qui est pour l'instant réservée à la Xbox Series X puisqu'on n'a pas encore pu mettre les mains sur la version PS5 du jeu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça veut juste dire qu'on n'y a pas encore joué en l'état. Alors, dans tous les cas, ça reste vraiment une évolution et presque une tentative de synthèse et de best-of de la série, en fait, puisque Assassin's Creed Valhalla va reprendre des éléments d'à peu près tous les épisodes de la série, en fait, et pour essayer de les équilibrer et de bien les intégrer dans un truc un petit peu organique, en fait. C'est la suite de la série, hein. Si vous suivez encore la méta-histoire qu'il y a autour, c'est dans la prolongation des épisodes précédents, et qui nous propulse cette fois-ci d'abord en Norvège et puis très rapidement en Angleterre, hein, comme toute la com autour du jeu vous l'avez bien expliqué. Et le premier truc en fait qu'on remarque, c'est que quelle que soit la version current gen ou next gen, c'est un jeu vraiment très beau. Sur le plan de la direction artistique, j'ai été assez bluffé, surtout de la part d'Ubisoft qui a plutôt tendance à réutiliser un petit peu toujours les mêmes techniques. Là, en termes de gestion de la lumière, de gestion des couleurs, de l'éclairage en fait des paysages et des bâtiments en fonction de l'heure de la journée, on est face à quelque chose de vraiment assez renversant en fait, je trouve. Et même sur PS4 Fat, parce que tu l'as dit, Plume, on y a joué sur à peu près tous les supports, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X, parce qu'en plus, si vous créez un compte Ubisoft Connect, vous allez pouvoir trimballer comme ça votre sauvegarde de machine en machine. Si vous avez un compte sur toutes les plateformes, vous allez récupérer votre dernière
Alors
sauvegarde.
ça marche, ça. Ça
Attends,
marche donc, hein.
tu peux transférer ta sauvegarde PS4 vers Xbox Series X?
Oui, alors, à condition que tu aies un compte Ubisoft Connect et que sur Series X, tu aies téléchargé en fait l'appli pour les autres. Mais quand je l'ai continué en fait sur Series X, j'ai repris là où je m'étais arrêté sur PS4.
C'est dingue ça.
C'est une des fonctionnalités du nouveau spot de Ubi qui est, on va dire, dont tout le monde devrait s'inspirer, je pense.
Tu as une sauvegarde cloud, en fait, et qui va être partagée en fonction de tes supports. Donc, si tu jouais sur PC, ce serait exactement la même chose. Tu vas pouvoir passer comme ça d'une machine à l'autre. Et pour ceux qui, justement, commenceraient sur Current Gen et qui attendraient, par exemple, la sortie de la PS5 pour le continuer, eh bien, vous allez pouvoir, évidemment, continuer votre partie ou l'essayer chez des potes qui auraient acheté la Xbox Series X. Ça marche vraiment très bien. Évidemment, c'est très pratique pour nous qui faisons le comparo sur plusieurs machines. Mais comme je disais, quelle que soit la plateforme, le jeu est très joli sur le plan de la DA. Vraiment, nous autres Européens, on va peut-être trouver que l'Angleterre, ce n'est pas le décor le plus dépaysant qu'on puisse imaginer, certes. Mais la manière dont il a été dépeint dans l'aventure, la manière dont il a été géré, ce qu'on nous propose en termes de paysage et la gestion de la lumière du soleil en fonction de sa course dans le ciel, c'est quelque chose de vraiment saisissant. Et c'est peut-être un des plus beaux jeux Ubisoft en termes de direction artistique. Vraiment, c'est un jeu que j'ai trouvé assez renversant sur ce point-là. Et ce, vraiment, sur tous les supports, même sur PS4, le jeu est quand même assez optimisé de ce point de vue-là. Donc, on a plaisir, en fait, à se balader dans ces environnements qui, après, restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire un jeu Ubisoft, donc des environnements ouverts dans lesquels il va y avoir beaucoup de collectibles, d'interactions avec des PNJ qui vont vous filer tout un tas de quêtes, puisque le jeu se structure encore avec les quêtes principales d'un côté, qui appellent généralement des sous-quêtes, et tout un tas de quêtes optionnelles de l'autre. Sauf que la dimension RPG qui avait été entamée avec les deux derniers, Origins et Odyssey, a été revue un petit peu à la baisse. Je pense qu'il y a eu tellement de critiques de la part des joueurs sur la gestion des niveaux qui était quand même assez contraignante que cette fois-ci, on est face à quelque chose de plus libre. Alors, il y a toujours un système de niveau à travers en fait, les points de compétences qu'on débloque et qu'on assigne à une espèce de constellation en fait, qui reprend les divinités du panthéon nordique, qui s'apparente un tout petit peu au sphérié d'FF10, avec quand même un petit peu plus de liberté dans les directions qu'on peut choisir. Mais voilà, ça va conditionner quand même un niveau, mais ce n'est pas un niveau basique en termes de stats, avec de l'action, de la défense, de la vie qui grimpe à chaque fois. C'est quelque chose qu'on module un petit peu à sa convenance, et ça rend l'expérience quand même vachement plus souple, parce qu'on peut équiper à peu près tout ce qu'on trouve immédiatement. On n'est plus conditionné à un certain niveau à atteindre. Donc, le jeu est rendu quand même plus souple et beaucoup plus agréable que je trouve que les deux derniers épisodes. Donc on se débarrasse, on va dire, de certaines lourdeurs. À côté de ça, l'une des grosses nouveautés, c'est la gestion d'une base vie qui s'appelle la colonie, puisqu'en fait, nos Vikings quittent leur terre de Norvège pour arriver en Angleterre, où d'autres Scandinaves sont déjà établis, mais Eivor, la guerrière ou le guerrier, en fonction du choix que vous allez faire dans l'animus, sachant que vous pouvez permuter évidemment de l'un à l'autre, puisqu'il paraît, je crois, selon les dires d'un ancien cadre d'Ubisoft, que les femmes ne font pas vendre, fin de citation, vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous avez une colonie à gérer qui va demander des ressources, qui va demander du temps, puisqu'en fait, on retrouve au centre les maisons-bateaux typiques des Scandinaves qui sont pleines de couleurs, qui sont vraiment très réalistes. Et autour de ça, tout un tas de petites tentes et en fait des améliorations, des bâtiments à construire au fur et à mesure qui vont faire venir à vous des talents, des gens que vous allez croiser sur votre route et qui, après leur avoir sauvé la vie ou filé un coup de main, vont vous dire « Eh, mais moi, je suis spécialiste de la forge, je vais venir chez toi » et du coup, vous aurez un forgeron à disposition dans votre base. Et ça, ce qui est sympa, d'ailleurs, c'est que ça ne concerne pas que les humains. Il y a aussi des animaux qu'on peut aider et qui, du coup, après, vont
venir. Ça rappelle pas du tout Far Cry. C'est ça,
voilà. Il se trouve que ce ne sont pas de jeux Ubisoft tous les deux. En fait. Il y a plein de choses, de toute façon, qu'on retrouve en termes de structure dans tous les jeux de l'éditeur. Romain, t'allais dire un truc.
Dans Yakuza, tu peux aider des animaux aussi.
Il y a du renard, il y a vraiment plein de trucs.
Je rappelle juste, le match, c'était entre Xbox Series X et PS5, pas entre Yakuza et le reste du monde, Romain. Attention de ne pas tomber dans ses travers.
My baby Yakuza.
Et alors, tu as raison, par contre, justement, sur le plan des différences entre les deux versions, puisque si vous lisez en fait les deux tests, le jeu a deux notes différentes, puisque l'expérience est quand même un petit peu plus sympa, moins frustrante, on va dire, sur Xbox Series X. Pourquoi ? Eh bien, au-delà des temps de chargement qui sont, comme le disait Romain, absolument instantanés, dans les Assassin's Creed, on sait qu'il y a énormément de points de synchro qui vous servent de téléporteur, là où ça prend une bonne quarantaine de secondes sur PS4, sur Series X, c'est vraiment 2 secondes chrono. On a l'impression vraiment de se téléporter d'un bout à l'autre de la map. C'est extrêmement appréciable en termes de confort. Mais au-delà de ça, en fait, ça change aussi la mise en scène. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui n'est pas forcément très bien conçu, en tout cas si on le compare aux AAA qui sont sortis ces derniers mois, dans le sens où il y a toujours cet effet de tu arrives sur le point de rendez-vous, les persos étaient en train de parler, ça se coupe brutalement, temps de chargement, cutscene, temps de chargement, réaction, déplacement, retemps de chargement, etc. etc. Alors, quand vous en avez pour une trentaine de secondes à chaque fois entre toutes ces différentes phases, on se retrouve face à un truc qui est vraiment haché, qui vous donne l'impression de vous faire poireauter un petit peu en permanence et qui supprime un peu la cohérence qu'il y avait dans la continuité de la scène. Là où sur Series X, on est face à quelque chose de très continu, on a un flow comme ça, ininterrompu, logique. On arrive, la cutscene s'enclenche, les personnages parlent, on continue vers le lieu de l'action. Tout de suite, en termes de mise en scène, on est face à quelque chose de beaucoup plus digeste. Et au-delà de ça, même l'IA des ennemis, une fois de plus, la série hérite de ses travers, à savoir un pathfinding qui est des fois un petit peu compliqué pour les PNJ qui vous accompagnent. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux ? Sans doute trop. Et le problème, c'est que sur Current Gen, bah, très souvent, moi, j'ai eu des vrais problèmes qui m'ont empêché de progresser ou qui m'ont obligé à trouver des petites astuces en fait, pour pouvoir passer outre des problèmes techniques. On a le retour des raids qui étaient déjà présents dans Odyssey, mais qui cette fois prennent la forme d'assaut où on va... grosso modo, bah, mettre à sac les villages de pêcheurs catholiques de l'Angleterre, hein, brûler les maisons, tuer les soldats et puis les dépouiller de toutes leurs richesses. Le problème, c'est que pour ouvrir des portes blindées ou pour piller des coffres qui seraient un petit peu lourds, on a toujours besoin d'avoir un PNJ avec soi. On ne peut pas le faire seul, il faut toujours avoir un acolyte. Le problème, c'est que sur PS4, même avec les dernières mises à jour, et bah, souvent, ils ont du mal à trouver leur chemin, voire des fois, ils ne viennent pas. Ou quand ils viennent, ils vont des fois arriver tellement vite qu'ils vont rentrer dans le coffre. Du coup, on a un polygone qui est encastré dans un autre polygone et qui ne peut plus l'ouvrir et ne peut plus s'en extraire. Donc, mon conseil dans ces cas-là, une bonne flèche dans le tibia, ça fait son petit effet. Mais toutes ces gênes qui sont quand même frustrantes parce que ce n'est pas une situation que j'ai rencontrée une fois. Hein. Je le précise, si la note est différente sur les deux, c'est que vraiment, on a une régularité de ces problèmes de routine, d'IA, de pathfinding des PNJ qui, sur Xbox Series X, disparaissent complètement. J'ai quand même passé pas mal d'heures sur la version next-gen. Pas une seule fois, je n'ai eu ce genre de problème qui frustre véritablement parce que ça nous sort de l'expérience. Surtout que les objectifs, justement, pour valider les raids, c'est de piller les richesses. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, ta quête n'est pas validée. Donc, tu es obligé ou de la recommencer ou de l'annuler pour pouvoir retenter ta chance. Bah, tout ça, sur Series X, vraiment, c'est... ça marche très bien, on sent que le gain de puissance en fait, aide véritablement le jeu à prendre son envol, à trouver véritablement la manière qu'il avait de fonctionner. Et les expériences, au final, ne sont pas forcément les mêmes. Le jeu reste bon, voire très bon, puisqu'on a une variété, on a une foule de choses à faire qui sont, si on les prend les unes après les autres, quand même assez intéressantes. L'écriture n'est pas forcément à se rouler par terre, hein. Mais évidemment pas dans un The Witcher ou ce genre de choses, mais le monde est quand même super agréable à parcourir. Moi, j'ai vraiment adoré me balader à cheval, à pied dans cet univers. Voilà, le problème, sachez que si vous le faites sur Current Gen, pour l'instant, en attendant de nouveaux patchs, puisqu'il y a quand même eu déjà 2 patchs avant le lancement qui ont progressivement amélioré certains points, mais pas tous, voilà, sachez que sur Current Gen, vous aurez une expérience qui sera parfois un petit peu frustrante, qui risque de vous faire rager, de vous faire recommencer certaines parties, alors que sur Next Gen, en attendant évidemment de découvrir la version PS5, on est face à quelque chose de quand même beaucoup mieux fichu, et ben, on a l'impression qu'il a été pensé avec justement la nouvelle génération de consoles en tête. Ça explique aussi sans doute la parenthèse et l'absence qu'on a eue l'année dernière de la série. Donc voilà, si vous avez l'embarras du choix, évidemment, privilégiez la version Next Gen, puisque pour l'instant, la version Series X est quand même beaucoup plus plaisante. Le jeu reste fluide et vraiment agréable sur le plan technique dans les deux cas, mais pour toutes ces raisons d'IA, de temps de chargement, de cutscene séparés de tout le reste, j'ai une vraie, vraie préférence pour la version next-gen qui change quand même l'expérience qu'on peut avoir de l'aventure.
Très bien. Bon, Eh ben écoute, merci. On rappelle que Yakuza Like a Dragon à 9, que Assassin's Creed Valhalla à 8 sur Xbox Series X et 7 sur PS4, si je ne m'abuse. Voilà, vous pourrez retrouver les tests évidemment sur Gameblog. Ainsi va donc le podcast 543. C'est terminé. Voilà, Romain, Thomas, merci d'avoir éclairé ainsi nos lecteurs pendant ces 8 heures que nous avons passées ensemble. Je rappelle évidemment à toutes les personnes qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous pouvez aussi commenter évidemment sous ce podcast, que vous pouvez aussi et surtout ne pas manquer la quotidienne. Alors, on le rappellera à chaque fois toutes les semaines, mais nous avons maintenant un rendez-vous quotidien que Alix et Thomas présentent à tour de rôle, surtout Alix.
Surtout Alix.
Voilà, surtout Alix. Et n'hésitez vraiment pas à aller regarder cette émission que Poufy prépare avec amour. Et vraiment, on insiste, hein, il met beaucoup de temps à chaque fois pour vous préparer l'émission qui est un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'actu les dernières 24 heures. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous connaissez la suite. RT, follow, la cloche, abonnement, laissez des pouces, et, etc.
Et une petite dernière chose. Oui. Spécial dédicace au Bénin. Au Sénégal
et à l'Angola.
L'Angola et au absolument. Burkina Faso.
Oui, absolument.
Et vous oubliez Berlin aussi.
Berlin lequel, aussi. Il y avait Berlin aussi.
Ah bah c'est ce que Trace vous disait. Oui.
Ah bah, pays et ville où le
nous
podcast
sommes très écoutés.
Où le podcast Gameblog est très écouté. Donc voilà. Salut, bah. Salut à tous. En tout cas, enfin, mine de rien, si vous écoutez le podcast dans un de ces pays, venez me le signaler sur Twitter. Je serais curieux de vous découvrir, voilà.
Bon. Eh bien, écoutez, maintenant, on va découvrir la fin de ce podcast. Donc, comme prévu, on se retrouve évidemment la semaine prochaine en espérant qu'un vaccin sera arrivé, qu'on pourra rentrer à la rédac. Peut-être pas tout de suite. Mais bon, quoi qu'il en soit, d'ici là, surtout, faites attention à vous, mettez un masque, lavez-vous les mains et ne faites pas trop les cons. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.
Ciao.